Mesdames et messieurs, merci Alain de ces mots d'introduction. La présidence est purement fonctionnelle, si je puis dire, et je dirais simplement que le frère Thierry Dominicain Brecht prendra ensuite donc la parole après l'intervention d'Alain de Libera sur la Translatio Studio Room. Peut-être pour introduire votre thème, Alain, j'avais prévu simplement une petite citation d'Étienne Gilson, février 1951, il est au Canada et il écrit à Françoise Demange, une de ses étudiantes et jeunes collègues, « Mon installation à Toronto, écrit-il, voici 10 ans que je la désire. Mais pour moi, Toronto, c'est l'Institut. J'ai désiré consacrer 3 ou 4 ans à cette œuvre et j'ai eu peur de mourir sans l'avoir fait. Il faut avoir vu ce que c'est pour comprendre ma décision. Notre ami, Vrin, est peut-être le seul, avec Henri Gouillet, qui puisse lire dans mon cœur sur ce chapitre. Aussi, bien entendu, le cher père Chenu. Imposer Toronto à ma Thérèse, c'eût été lui imposer un sacrifice sans aucune compensation pour elle. Après le drame, au contraire, il me fallait fuir des murs imprégnés d'elle. Et où aller, sinon où nul lieu ne me retenait plus d'aller. Tout ceci, bien intéressant à expliquer à l'Assemblée du Collège de France, n'est-ce pas? On est là dans le moment de crise de départ de Gilson du Collège et un drame intérieur également, puisque son épouse vient de décéder. Je sais que vous êtes une des 10 ou 12 personnes pour qui mes cours représentaient quelque chose. C'est vrai, mes amis parisiens les ont eus pendant 18 ans, je ne suis même pas certain que mes étudiants d'ici, au Canada, les aient au moins 2 ans. Si vous pouviez les voir, 70 étudiants assoiffés de toutes ces richesses, amassées par les pères grecs dans un pays où l'on enseigne ces choses pour la première fois depuis la naissance du Christ. J'ai combien de temps encore pour en former une 20aine de bons et les lâcher en pleine terre américaine? Vous savez bien que mon grand homme, que j'ai choisi du troisième ordre pour qu'il fût à ma mesure, est Alcuin. Voilà, Alcuin, figure de cette translation, déplacement, transmission du flambeau des études, figure emblématique en quelque sorte de la geste gilsonienne. Alain.
Merci beaucoup Florian pour cette introduction émouvante. Personnellement, je veux aujourd'hui célébrer à la fois le 150e anniversaire de la fondation de l'École pratique des hautes études et la mémoire d'Étienne Gilson, mon prédécesseur au Collège de France, mort il y a 70 ans, les célébrer en présentant la Translatio Studio Room, le transfert des études, sous un angle particulier, l'angle de ceux qui, avec Gilson, l'ont découverte, l'ont rendue lisible et ont aidé avec lui et par lui à en construire le concept et à le mettre en application. Je veux donc par là même, mais c'est aussi un devoir de mémoire personnelle et collective, rendre hommage d'une part à mes maîtres, Jean Jolivet et Paul Vigneault, qui tous deux se rapportaient et de diverses manières à Gilson, et d'autre part à mon étudiant à l'École pratique des hautes études, Marc Geoffroy, tous trois disparus, pour Paul Vigneault le 26 août 1987, pour Jean Jolivet le 8 mars dernier, et pour Marc Geoffroy, le 4 mai. Étienne Gilson. Mon récit commence il y a 90 ans, durant l'année académique 1925-1926, par un événement pour lequel il me faut un témoin. Je m'appuierai donc sur un texte de Paul Vigneault, rédigé il y a 40 ans, en 1978. Voici ce qu'écrit Paul dans sa nécrologie d'Étienne Gilson, auquel il a succédé à l'École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, en 32 et ou 33. Les leçons de 1928-29 attestent une initiative dans l'esprit de la section, de liaison entre histoire de la spéculation et de la spiritualité. Préparation nécessaire. La conférence de 1925-1926 sera l'Avicenne latin du Moyen-Âge, étude de textes imprimés ou manuscrits concernant la définition de l'âme et de ses facultés d'une part, la théorie d'autre part des divers intellects, incompréhensible si on ne remonte pas à Al-Farabi, à Al-Kindi et à Alexandre d'Aphrodise. Le directeur d'études a été un initiateur dans l'étude des présupposés gréco-arabes de la noétique du Moyen-Âge latin. Ce qui est raconté là, pour 1925, 1926 et 28-29, en liaison amont-aval, a lieu à l'EPHE, pas à la Sorbonne, où, entre 24 et 26, Gilson s'occupe de toute autre chose. Le résumé programme de la conférence de 1925-1926 est publié dans le tome 35 de l'annuaire de la section des sciences religieuses. Cette année-là, Étienne Gilson fait cours sur la philosophie de Duinscott, le mardi, et l'Avicenne latin du Moyen-Âge, le mercredi. Il a 64 inscrits, 20 titulaires, dont M. Corbin Petit-Henri, et 20 réguliers, dont Mademoiselle d'Alverny. Voici le texte de ce résumé, je le lis. On a d'abord étudié la composition du recueil des traductions d'Avicenne, édition gothique de Venise, 1508, puis on a choisi le Liber Sextum Naturalium, psychologie, comme terrain de recherche à cause de sa profonde influence sur la scolastique latine. Il est apparu très rapidement que le texte imprimé en 1508 était inintelligible et que l'explication en serait incomplète sans une transcription et une correction aussi étendue que possible d'après les manuscrits. L'édition de 1508 suit en général un manuscrit du type Bibliothèque nationale, fonds latin 16602. Une autre famille, dont le texte est plus satisfaisant, est représentée par le manuscrit 584 de la Bibliothèque de l'Université de Paris, que l'on a pu consulter dans la salle même des conférences. Toute une série d'autres manuscrits de la Bibliothèque nationale ont été examinés, fonds latin 6443, 6514, 6932, 8802, 14854, 16133, 16602, tant pour le texte d'Avicenne que pour celui de ses prédécesseurs arabes. L'analyse de la définition de l'âme et de ses facultés a pu s'effectuer dès lors sans difficultés insurmontables. Par contre, la théorie des divers intellects, telle que l'expose Avicenne, n'a pu être éclaircie qu'au prix d'une enquête approfondie sur l'œuvre de ses devanciers. Il a donc fallu remonter à Alexandre d'Aphrodise, De Intellectu, édition Théry, redescendre à Al-Kindi, De Intellectu, édition Nagy, puis à Al-Farabi, dont le De Intellectu et Intellectis n'existe qu'imprimé parmi les œuvres d'Avicenne. Cette ancienne édition étant un fouillis de fausses lectures, et nulle édition moderne n'existant, il a fallu établir le texte par collationnement complet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, fonds latin 16602, prototype de l'édition gothique de 1508, 16613, extrêmement mauvais, 6325, 6443, 16159 et enfin le 8802 de beaucoup, le meilleur pour servir de base à une édition critique. Éclairée par l'étude de ses prédécesseurs et surtout d'Al-Farabi qu'elle suit de près, la doctrine avicennienne de l'intellect a pu être expliquée de manière satisfaisante. Ainsi se trouve établie la base d'une étude de l'influence exercée par la psychologie d'Avicenne sur la scolastique latine. On aimerait avoir assisté à cette conférence, à cette extraordinaire leçon de méthode. D'une certaine façon, on en recueille l'écho ou la lumière 90 ans plus tard, et on n'a pas cessé de le faire de génération en génération, de livres en livres, depuis lors. Vous aurez noté au passage la distinction de deux familles de manuscrits du De Anima d'Avicenne que confirmera l'édition critique de Suzanne van Riet. Dans son compte-rendu, Gisson indique ce qu'il va faire et ce qu'il a fait, grâce, je cite, au travail de critique textuelle exigé par la conférence, qui a été mené à bien grâce à l'inlassable dévouement d'élèves de l'école qui ont transcrit ou collationné sur les manuscrits des parties entières du Liber Sextum Naturalium, dont Mademoiselle d'Alverny. Le résultat, c'est les sources gréco-arabes de l'augustinisme avicennisant, un article qui paraît dans les archives d'histoire littéraire et doctrinale du Moyen-Âge en 1930, pour l'année 1929, la quatrième année de la revue fondée en 1926 avec le père Gabriel Théry, revue que Marie-Thérèse d'Alverny dirigera de 1953 à 1991 avec Étienne Gilson et le père Théry, auquel succédera le père Marie-Dominique Chenu, puis qu'elle dirigera avec celui-ci seul de 1979 à 1989 après le décès d'Étienne Gilson. Le texte s'ouvre sur un constat d'une portée considérable. Tout dans cette histoire commence par les manuscrits, au fond. L'étude de la tradition manuscrite et la philologie. Voilà le début de l'article. En jetant un coup d'œil sur les manuscrits qui contiennent des traductions latines médiévales d'œuvres arabes, on constate aisément l'existence d'une tradition qui voulait que certains traités De Intellectu fussent recopiés dans le même volume et réunis pour la plus grande commodité du lecteur. Alexandre d'Aphrodise, Al-Kindi, Al-Farabi, le De Anima d'Avicenne semblent s'appeler les uns les autres et se compléter mutuellement. C'est qu'en effet, ces écrits formaient une chaîne doctrinale qui permet de suivre les progrès accomplis par la spéculation philosophique touchant la doctrine de l'intellect. Nous avons, dans la Summa contra Gentiles de saint Thomas, livre 2, chapitre 59-78, un bon exemple du soin extrême avec lequel ces matériaux furent dans la suite colligés, critiqués, utilisés. Et l'on pourrait trouver chez les latins du XIIIe ou même du XIVe siècle la preuve de la vitalité persistante des idées et formules mises en circulation par des philosophes grecs ou arabes qui avaient vécu plusieurs siècles auparavant. C'est l'histoire d'une partie au moins de cette tradition que nous voudrions esquisser, celle qui passe par Avicenne et qui, à travers ce que nous avons proposé de nommer l'augustinisme avicennisant, peut réclamer, dans une certaine mesure, comme sien, des hommes de la valeur d'un Albert le Grand ou d'un Ulrich de Strasbourg. Ici comme ailleurs, le point de départ est dans Aristote, et c'est donc de lui qu'il nous faut partir à notre tour. La chaîne doctrinale gréco-arabe, mise en rapport avec la Summa contra Gentiles 2, 59-78, voilà un fait important, c'est un moment de la Translatio Studiorum. Mais avec la constitution de ces anthologies, de ces bibliothèques de poche, c'est aussi une figure de la transmission traditionis traditio. On observe le même phénomène pour la logique, la logica avicennae, et son double, la logica al-Ghazalis, qui d'ailleurs se rencontre avec les textes de psychologie dans un des manuscrits mentionnés par Gilson pour le livre Liber Sextum Naturalium. C'est le cas du National Latin 6443, le manuscrit P de l'édition critique de Françoise Udry, qui paraît cette semaine chez Vrin, qui donne en texte numéro 28 la Logica d'Al-Ghazal et en numéro 29 celle d'Avicenne, donc ce manuscrit 6443. Voilà enfin l'édition critique de la Logica d'Avicenne que l'on attendait depuis 1508. Le point de départ de Gilson pour ses chaînes manuscrites De Intellectu est le travail du père Gabriel Théry, qui vient de publier en 1926 son deuxième volume sur le décret de 1210 consacré à Alexandre d'Aphrodise. Autrement dit, la censure parisienne des Libri Naturales d'Aristote. Volume qui pose les premières pierres d'une histoire de la réception contrariée de la philosophie gréco-arabe par les latins. En 1929, Gilson suit maillon après maillon la chaîne, chacun des auteurs qui la compose nous renvoyant, je cite, lui-même à ses sources. Le processus est linéaire, mais il est figuré comme l'expansion d'un noyau unique, un point d'explication, complication. Car, dit Gilson, j'ouvre la parenthèse, les guillemets plus exactement, un texte d'Aristote a joué sur ce point un rôle privilégié, à tel point qu'en un certain sens, l'histoire de l'intellect au Moyen-Âge se confond avec celle des interprétations qui en furent alors proposées. C'est celui de De Anima 3, 5, 430, A, 10, 19. Gilson en extrait 9 points, correspondant à ce que, réduit à l'essentiel, ce texte obscur contient, je cite, d'à peu près intelligible. 9 points de suture de la psychologie et de la métaphysique d'Aristote avec la logique et l'éthique, encore à venir en tant que discipline reconnue. La visée de l'article est claire. C'est comprendre quelles répercussions l'étude des problèmes posés par le De Anima 3, 5, 430 à 10, 19, rapproché de certains passages de la métaphysique ou encore de l'éthique à Nicomaque, a exercé sur l'histoire de la philosophie chrétienne au Moyen-Âge. Notez l'expression « philosophie chrétienne » sur laquelle reviendra Ruedi Imbar. Deuxièmement, c'est déterminer dans quelle mesure cette étude a conditionné la pensée de saint Thomas d'Aquin lui-même. Deux thèmes abordé dans la première livraison des archives avec « Pourquoi saint Thomas a critiqué saint Augustin ?» page 5-127. Mais aussi, et c'est le nouvel angle, c'est montrer que, en dehors de la vigoureuse réaction contre l'avicennisme que représente le thomisme, on peut trouver au Moyen-Âge des influences avicenniennes plus profondes et plus persistantes qu'on ne l'imagine communément. C'est cette recherche sur l'augustinisme avicennisant, poussée par Étienne Gilson jusqu'à Albert le Grand, qui implique une remontée aux sources d'Avicenne, puisque, je cite, « pour comprendre Avicenne lui-même, il faut d'abord connaître ce dont il ne fut que le continuateur. C'est ni plus ni moins le programme de 1925. C'est pour la psychologie et la noétique, le brouillon et le cahier des charges de l'étude philosophique de la Translatio Studiorum. Notons-le bien, le titre même de l'article « Les sources gréco-arabes de l'augustinisme avicennisant » l'annonce, ce n'est pas autour d'Averroès qu'est bâti ce premier travail sur la noétique, mais bien autour d'Avicenne. Le plan de l'article jette les bases d'une recherche qui va se poursuivre jusqu'à nos jours et qui est toujours en cours. J'appelle ça le programme de 29, n'est-ce pas ? Grand 1, Alexandre d'Aphrodise. Premièrement, la doctrine d'Alexandre. Deuxièmement, le pseudo-Alexandre. Grand 2, les prédécesseurs d'Avicenne. Premièrement, Al-Kindi. Deuxièmement, Al-Farabi. Grand 3, Avicenne. 1, la définition de l'arme. 2, classification avicennienne des intellects. 3, fonctionnement des intellects avicenniens. Grand 4, première conjonction de la pensée arabe et de la pensée chrétienne, Al-Ghazel et Gundi Salinus. 5, la synthèse d'Avicenne et du néoplatonisme chrétien. 6, conclusion. Il n'est pas question d'entrer dans le détail des analyses de Gilson. Notons seulement à propos du point 4. La mise en place du duo Avicenne-Averroès sur le terrain noétique. Duo que l'on retrouvera en 1948 pour la première fois en France sur le terrain ontologique-métaphysique dans deux chapitres de l'être et l'essence, Avicenne-Averroès en tant que protagoniste de plein exercice à parité avec les autres grands d'une enquête à travers l'histoire de la métaphysique de Parménide à Kierkegaard. C'est le sous-titre du livre, avec en appendice, dans l'édition de 1962, les remarques sur la nouvelle philosophie de l'être de Martin Heidegger. L'influence d'Avicenne, donc, est à réévaluer. Les historiens de la pensée médiévale se sont particulièrement intéressés à l'histoire de l'avéroïsme. Rien de plus légitime, car l'influence de l'avéroïsme sur l'évolution de la pensée chrétienne fut profonde. Non moins profonde, nous semble avoir été l'influence d'Avicenne. On l'a pourtant moins étudiée, peut-être précisément parce que ce qu'il y avait de néoplatonicien et même de néoplatonisme déjà christianisé dans sa doctrine fut beaucoup plus aisément assimilé par la pensée chrétienne que ne pouvait l'être le système d'Averroès. Jean Jolivet, auquel je viens à présent, parlera d'Averroès. Mais il l'introduira petit à petit, comme par la bande, sous la pression de l'intrigue et la contrainte des faits, parce que c'est l'article de 1929 qui est son point de départ, et que ce point de départ est juste, et parce que c'est Avicenne qui est son grand homme, comme il le confiera lui-même dans un entretien accordé à Rouedi Imbach et Irène Rosier-Catache. Jean Jolivet est mort le 8 mars 2018, à l'âge de 93 ans. C'est durant l'année 1965 qu'il donne son premier enseignement à l'École pratique des hautes études en tant que maître assistant, après un parcours académique de 20 ans, qu'il l'a vu entrer à l'ENS en 1945, obtenir l'agrégation de philosophie, enseigner dans le secondaire, en particulier à Alger, de 1952 à 1955, où il apprend l'arabe, entrer en 1955 au CNRS, exercer la fonction de maître assistant à la faculté des lettres de Paris, 61-64, et à celle de Nanterre, en 75-65, avant d'entrer, en 65, à la section des sciences religieuses de l'EPHE. Maître assistant de 1965 à 1970, Jean Jolivet est élu directeur d'études en 70. Il le restera jusqu'en 1993, enseignant d'abord aux côtés de Paul Vigneault et de René Roch dans le cadre de la direction d'études d'histoire des théologies médiévales, la direction d'études issue de la duplication de celle de Gilson, qui s'intitulait « Histoire des doctrines et des dogmes », puis, sous un intitulé personnel, un intitulé propre introduit en 1974, « Religions et philosophies » au pluriel, dans le christianisme et l'islam au Moyen-Âge. En 1965, hors des murs de l'école pratique, 5e section, escalier premier étage, Jean Jolivet est un spécialiste d'Abélard et de la théologie latine du haut Moyen-Âge. Il a soutenu son diplôme de l'école sur Godescalque d'Orbais sous la direction de Paul Vigneault en 1954. Il soutiendra sa thèse sur art du langage et théologie chez Abélard en 69 en Sorbonne, sous la direction de Maurice Patronnier de Gandillac. Mais ce n'est pas de ses recherches doctorales que sera tiré le contenu de son enseignement à l'École pratique des hautes études. Voilà le fait saillant. Jean Jolivet ne se répète pas. Question d'éthique. Durant plus de 10 ans, les cours séminaires de Jean Jolivet, les conférences dans la terminologie de l'école, seront consacrés à ce qu'on pourrait appeler le déploiement intégral des thèmes programmés et engagés par l'article gilsonien de 29 et la conférence de 25. Ce déploiement continué dans le temps est ce qui m'autorise à parler du dispositif gilsonien de 25-29 comme d'une sorte de matrice intellectuelle. Le cours de Jean Jolivet en 65, première année, tome 74 de l'annuaire, voit la rencontre d'Averroès et de la question de la béatitude sous l'égide de Jean de Ripa. C'est comme une sorte de vignette qui exprime ce qu'est alors, au milieu des années 60, scientifiquement, la section des sciences religieuses. En 1965, et depuis quelques années, Jean de Ripa est l'auteur de référence de Paul Vigneault et de Mgr André Combes. C'est l'auteur sur lequel s'achèvera 10 ans plus tard l'enseignement de Vigneault. Pour dire les choses en une phrase, le cours de 65 insère la noétique averroïste dans le noyau dur de la direction d'études de Vigneault. Jean Jolivet présente d'ailleurs Jean de Ripa, je cite, comme un auteur averroïste. Le cours est une synthèse rigoureuse qui met en place la problématique du texte étudié, les questions 1 et 2 du prologue de la Lectura Super Primum Sententiarum du docteur Super Subtil, hein, publié par André Combes en 61. Question 1, question théologique. Est-ce que l'essence divine peut être, en sa nature immense, connaissance théologique béatifiante pour un intellect créé? Question 2, question philosophique. Est-ce que, selon la thèse d'Aristote et de ce commentateur Averroès, la première intelligence peut être, pour une intelligence inférieure à elle, connaissance théologique béatifiante? Le cours contient aussi une synthèse rigoureuse, n'est-ce pas, qui expose les enjeux, les concepts fondamentaux, dont celui d'immutatio vitalis, les résultats théoriques. La thèse affirmant, par exemple, la possibilité qu'une chose soit pour une autre connaissance formelle, la possibilité qu'une chose soit pour une autre connaissance formelle sans information ni inhérence. Encore, la description des relations entre l'intellect possible et l'intellect agent jusqu'à l'union suprême, postrema copulatio, où réside le bonheur dernier, ultima prosperitas. Cette convergence de la philosophie et de la théologie est une illustration parfaite de ce que Vigneault appellera, dans le texte de 78, la nécrologie que j'évoquais tout à l'heure, l'esprit de la section, la liaison entre histoire au pluriel de la spéculation et de la spiritualité. C'est en des textes de ce genre qu'on voit converger la philosophie averroïste de la connaissance et la théologie de la béatitude, rencontre que plusieurs historiens ont signalé et qu'il faudra examiner en d'autres occasions, écrit de son côté Jean Jolivet. C'est ce qu'il fera et que d'autres continuent de faire. Vous avez ici un certain nombre de références d'Édouard-Henri Weber à Jean-Baptiste Brunet, en passant par Jean Jolivet lui-même, qui revient en 2002 sur un cas singulier, Averroès et Jean de Ripa. Je ne puis suivre à présent en détail toutes les conférences données par Jean Jolivet entre 65 et 76. Ce qui compte, c'est la relation entre les deux heures, où se distribuent les deux sujets traités chaque année dans la conférence, les directions qu'elles impriment à l'étude, le lien qu'elles entretiennent, leur implication mutuelle, leur tissage, leur intertissage progressif, qui en quelque sorte s'impose à Jean Jolivet comme maître de conférence, puis comme directeur d'études, et instaure une relation dialectique entre travaux de la première et de la deuxième heure, entre la mystique de l'intelligible d'Alexandre à Avicenne et la noétique, la théorie de l'intellect aristotélicienne chez Averroès et dans l'Averroïsme latin, avec en filigrane, en contrepoint constant, les figures de Platon et du, ou plutôt des, platonismes. En 1966, deuxième année, Jean Jolivet expose un programme à longue échéance. Les doctrines de l'intellect dans l'Antiquité, le christianisme et l'islam. C'est la réalisation, c'est le déploiement de ce qui est contenu dans l'article de Gilson sur les sources gréco-arabes de l'augustinisme avicennisant, qui confirme, n'est-ce pas, le caractère séminal ou plutôt matriciel des textes de 25-29. L'enseignement est distribué sur les heures du lundi, qui traite de cette doctrine de l'intellect, de ce triptyque antiquité, christianisme, islam, et les heures du mardi, qui voit s'achever le travail sur Jean de Ripa par l'annonce d'une recherche sur la noétique d'Averroès pour l'année suivante. On a, dès ces deux premières années, chez le jeune maître assistant, deux thèmes. L'alliance entre noétique arabe et théologie de la vision bienheureuse. Et l'enquête sur Averroès, qui ne cesseront de s'entrelacer. Il faut insister sur un point. Jean Jolivet active la structure que constitue en puissance le texte gilsonien de 1929. Mais ses références sont celles de l'école pratique des hautes études des années 65. C'est Vigneault, dont il se dit plus proche que de Gilson, dans l'interview accordée à Rudy Imbach et Irène Katache, parce qu'il n'adhère pas au thème de la philosophie chrétienne, dont nous parlera dans quelques minutes, avais-je écrit, mais disons dans quelques heures peut-être, pas trop j'espère, Rudy Imbach. Cela dit, c'est bien le programme de 25-29 qui est déroulé par Jean Jolivet quelques 40 ans plus tard. Tout le propos du cours s'articule sur la justification de ce que Jean Jolivet appelle l'excursus gréco-arabe de Jean de Ripa dans son discours théologique. L'excursus, qui est la trace laissée dans les textes par la Translatio Studiorum, cet excursus a une fonction. Il apporte avec Averroès de quoi penser la félicité dernière. Notez ce nom, félicité, pour la béatitude, signe de convergence, mais qui pourrait être aussi signe de conflit, il le sera d'ailleurs. C'est selon... Jean Jolivet reviendra sur ce thème, et ce terme, en abordant en 69 le traité sur la béatitude de l'âme d'Averroès, annuaire tome 78. L'excursus arabe ne concerne pas qu'Averroès, il concerne Avicenne et Al-Ghazal. Il y a là, sur le terrain de la félicité dernière et ou béatitude, un aveu étonnant chez Jean de Ripa que Jean Jolivet, évidemment, souligne. Sur certains points, je cite, « Ces Arabes ont été plus proches de la vérité catholique que les tenants de la lumière de gloire, qualité créée. » En 67, Jean Jolivet commence à exposer la noétique d'Averroès, en rappelant d'emblée que l'original arabe étant perdu, il faut, pour arriver à Ibn Rushd, passer par le latin. Bel exemple de retour aval, retenez ce point. Nous y reviendrons en invoquant le travail de Marc Geoffroy. En attendant, surfant sur les années, j'en viens à 1974. Dixième année, tome 83 de l'annuaire. C'est en 1974, dans le cadre d'une direction d'études autonome, intitulée « Religion et philosophie dans le christianisme et l'islam », que Jean Jolivet va, dans l'heure du mardi, en alternance avec des travaux collectifs sur le nom de l'Exode, « Ego sum qui sum », Exode 3, 14, aborder, en alternance donc, Siget de Brabant et l'avéroïsme latin. Appellation que Jean Jolivet conserve, avéroïsme latin, bon gré, mal gré, sans céder aux critiques adressées par Fernand van Steenbergen à cette catégorisation historique, pour le XIIIe siècle du moins. Le travail s'appuie sur l'édition de Bernardo Carlos Bazán, parue en 1972, des Questiones in tertium de anima. Bernardo Carlos Bazán, grand éditeur et interprète de Siget, mais aussi de Thomas, dont la thèse actualisée sera publiée dans Sic et Non en 2016, sous le titre « La noétique de Siget de Brabant ». Bazán, gentilhomme argentin et exilé de tous les exils, à Louvain à l'époque, qui hélas nous a quittés lui aussi la semaine dernière, jeudi 24 mai, je crois, après une longue et douloureuse maladie. Avec l'étude des Quaestiones inter suum de anima, on est en plein dans la crise de 1269-1270, l'année où tout se joue du bras de fer entre Siger de Brabant, Thomas d'Aquin et Étienne Tempier. Dans son analyse des questions de Siger, Jean Jolivet met l'accent sur quelque chose d'autre, sur la dimension néo-platonicienne et même platonicienne de la pensée du philosophe belge, retrouvant chez lui, je cite, « la confluence de l'aristotélisme et du néo-platonisme déjà observée à maintes reprises, entendez, dans l'enseignement donné depuis 1965 à l'École pratique des hautes études. » Avec l'année universitaire 75-76, la 11e année, la transition entamée avec la création d'une direction d'études autonome s'achève. Un nouveau cycle commence vraiment. 1975, donc, tome 84 de l'annuaire. Jean Jolivet l'annonce en liminaire, il change de sujet, choisissant un thème qu'il veut plus en accord avec le nouvel intitulé de sa direction d'études. Ce thème, recherche sur l'éternité, le néant et la création dans le Kalam et la Falsafa, exercera une influence profonde, qui là aussi dure encore sur une partie notable de la recherche impulsée à l'École pratique des hautes études. Le travail conjoint sur le Kalam et la Falsafa, rejoignant l'idée d'une pluralité des formes du rationnel, acquise par les élèves ou auditeurs de Jean Jolivet au contact de Paul Vigneault. Idée qui se déploie dans les recherches que Vigneault lance au Centre d'études des religions du livre sur la mystique écartienne, en relation avec l'affirmation que tout ce qu'il y a de rationnel dans le monde n'y entre pas nécessairement par la simple raison. Selon une formule de Victor Delbos, un des maîtres de l'histoire de la philosophie dans la Sorbonne d'avant-guerre, cité par Vigneault dans son livre de 1958, Philosophie au Moyen-Âge, réédité en Suisse en 1987 par Wedi Imbach, puis en 2004 chez Vrin. En deuxième heure, Jean Jolivet continue son interprétation de Siger, étayant toujours plus sa vision du néoplatonisme sigérien, mais aussi revenant sur la critique thomasienne et le débat Thomas-Siger. Il étudie ensuite le dossier monté par le grand médiéviste italien Bruno Nardi, disparu en 1968, sur la réponse de Siger au De Unitate Intellectus de Thomas d'Aquin. Le De Intellectu, dont ne subsistent que des citations de chez Agostino Niffo. Puis il examine le Liber De Felicitate, où il trouve, sous la plume de Nardi et de Siger Niffo, comme on dit Socrate-Platon, l'accomplissement des thèmes noués depuis le début des cours de 1965. Divinisation, béatification par l'intellect, accord de la noétique et de la mystique. Vous avez ici quelques citations de Siger selon Nardi Niffo. Certaines sont extraordinaires. Selon ce traité, l'intellect agent est Dieu, si bien que la jonction de l'intellect agent à l'intellect en puissance est béatifiante parce que déifiante, écrit Jolivet, relevant quelques formules. L'intellection par laquelle Dieu est pensé est Dieu lui-même. Dieu est intellection et action pour soi-même et les autres bienheureux. Nous serons heureux par l'essence de Dieu comme il l'est lui-même et sans intermédiaire. L'intellect inférieur pense l'intellect supérieur par l'essence du supérieur. On retourne aux commentaires. Niffo remarque que selon les théologiens, l'âme humaine peut connaître Dieu intuitivement, d'une connaissance qui est Dieu, et, ajoute-t-il, Siger affirmait que cela est démontrable par la raison naturelle en se fondant sur le désir qu'a l'âme rationnelle du souverain bien et de la plus grande science. Ainsi se rencontrent théologiens et philosophes. Il y a toutefois cette différence que selon les premiers, la volonté divine suffit à la béatification, tandis que pour Averroès, cette intellection suprême n'est accordée qu'à celui dont l'intellect théorétique est arrivé à sa perfection. Et Jean Jolivet de conclure, nous voyons une même mystique de l'intelligible se diviser en fonction de deux théologies différentes, celle des théologiens et celle des philosophes. Mais retenons ici surtout cette apparition d'un avéroïsme mystique, écrit-il. Avec l'avéroïsme mystique, Jean Jolivet lance une notion qui, rencontrant le mysticisme spéculatif écartien mis en relief par Vigneault à la même époque, conduira Émilie Zumbrunn et moi-même à entamer une collaboration suivie avec Kurt Flasch, éditeur et interprète de Dietrich von Freiberg, Flasch à la fois ouvert à la source gréco-arabe et critique de la notion de mystique appliquée à Dietrich et Eckhart, Flasch, récent auteur d'un grand livre sur Blumenberg, dont M. Monod nous parlera demain, ouvrant une séquence, n'est-ce pas, qui, pour m'en tenir au thème de la Translatio Studiorum, aboutit à la publication chez Vrin du volume de Kurt Flasch intitulé « D'Averroès à Maître Eckhart, les sources arabes de la mystique allemande », il y a de cela quelques années. En 1976, la deuxième heure de Jean Jolivet, qui seul nous concerne ici, est consacrée à Jean de Jandun, en l'occurrence à la lecture de quelques textes tirés de son commentaire du traité de l'âme d'Aristote. C'est une évolution décisive, presque une révolution, malgré le diagnostic peu apéritif d'Ernest Renan, n'est-ce pas ? Peu d'auteurs ont été plus cités et ensuite plus oubliés que Jean de Jandun. Bon, il y en a peut-être d'autres dans cette salle, n'est-ce pas ? À commencer par celui qui parle en ce moment. Mais bon, mais enfin, en tout cas, pour Jean de Jandun, c'était vrai à l'époque. En fait, Jean Jolivet aborde Jean de Jandun en détail. Il faut dire que Fernand van Steenbergen a, en 1974, posé un diagnostic qui le rend incontournable du point de vue de l'histoire de l'avéroïsme latin. L'avéroïsme latin, écrit van Steenbergen, est né à Paris au début du XIVe siècle, avec Jean de Jandun. Car il s'agit cette fois, contrairement à Sigé qui ne le faisait pas, d'un philosophe qui reprend à son compte la philosophie d'Averroès dans son ensemble et la considère, avec Aristote, comme son maître à penser. Jean de Jandun s'oppose au platonisme, explicite ou latent, qui fonde la dévolution à la métaphysique d'une partie de la science de l'âme. Mais, écrit Jolivet, s'il n'est pas platonicien, il n'est pas non plus un pré-cartésien. C'est un homme du Moyen Âge. C'est la question de la connaissance au sens de l'intellection des substances séparées, dont on a vu le rôle dans la question de la béatitude, qui constitue le point d'orgue du séminaire de Jean Jolivet et de l'ensemble du parcours qu'il a suivi depuis 65. La question 36 du livre 3, où l'on demande si l'intellect humain peut penser les substances séparées ou intelligence. Jean Jolivet donne de ce texte une lecture cursive, médiévale. Il montre que Jean de Jandun reprend à son compte ce que Jean Jolivet appelle un des points les plus subversifs de l'avéroïsme, à savoir le caractère naturel de la félicité. Ce point, dit-il, touche de si près, c'est le texte B, touche de si près au fond même de la doctrine qu'il se présente comme un postulat au début de l'explication de la thèse d'Averroès, lorsque Jean écrit que par tout mouvement naturel déterminé, est acquis en quelque façon ce qui est la fin de ce mouvement, parce que sinon, ce mouvement serait vain, frustra. La félicité suprême est la connaissance de la substance suprême qui est Dieu. Voilà en somme bouclé le parcours ripien, Jean de Ripa, entamé en 1965. Dès lors, j'y étais, on abandonne la noétique. Décision collective, démocratique, exténuée peut-être, on passe à la grammaire spéculative modiste de Boèce de Dacy, un avéroïste allégué, mais justement pas considéré sous cet angle. La grammaire spéculative modiste de Boèce de Dacy, intermède entre le travail sur le XIIe siècle qui se profile à parte ante pour les années futures et ce qui vient de s'achever avec l'avéroïsme, c'est le texte C, sans contester l'intérêt que présente la pensée de Jean de Jandun, ni l'avéroïsme en général, ni la noétique aristotélisante. Les auditeurs et le directeur d'études sont tombés d'accord pour arrêter ici une étude qui dure depuis plusieurs années. Nous avons passé les heures du dernier trimestre à lire les quelques questions des Modi Sivakanthi de Boèce de Dacy. L'an prochain, nous nous tournerons vers le XIIe siècle. 13e année, 77, tome 86. Eh bien, l'année 77 voit de fait l'abandon des recherches sur la noétique pour l'heure latine, et Jean Jolivet abordait enfin dans son enseignement ce XIIe siècle auquel il a consacré parallèlement sa thèse et depuis 65 la plupart de ses publications. Le cours porte sur Adélard de Bath, en commençant par le Déodème Eddy Uerso. En fait, on ne s'éloigne pas complètement des Arabes, mais ceci, comme aurait pu dire Rudyard Kipling, est une autre histoire. Marc Geoffroy. Je veux à présent évoquer Marc Geoffroy, qui fut mon étudiant et mon ami, mort tragiquement le 23 avril. J'ai eu le privilège de travailler avec Marc durant une assez longue, mais trop courte période. Je l'ai rencontré pour la première fois à l'École pratique des hautes études, au milieu des années 90, à la 5e section, où il était venu dans le but de s'inscrire en thèse avec moi. Il était à l'époque professeur agrégé d'arabe au collège de Burtzwiller à Mulhouse. Ses conditions de travail étaient pratiquement incompatibles, et même tout à fait incompatibles, avec la recherche doctorale. Mais le fait est là, Marc a pu quitter Mulhouse, non sans difficulté, et entamer une carrière, un parcours, qui l'a mené successivement à l'IRHT, au LEM, Laboratoire d'études des monothéismes, puis au Centre Jean Pépin. Quant à la thèse finalement inscrite, elle a été soutenue le 16 décembre 2009. Dans la vingtaine d'années que la vie lui a laissée pour mener des recherches exténuantes, Marc a produit une œuvre où je vois le déploiement et la réalisation du programme articulé par Étienne Gilson dans le cours de 25 et l'article de 29, poursuivi par Jean Jolivet à l'École pratique des hautes études. De fait, un des premiers textes de Marc est pour ainsi dire la reprise du dossier ouvert par l'article de 29 de Gilson, les cours de 71 et 72 de Jolivet, tome 80-81 de l'annuaire, et l'article de 97 de Jolivet sur les quatre sens de l'intellect chez Farabi. Je veux parler de la tradition arabe du Périnou d'Alexandre d'Aphrodise et les origines de la théorie farabienne des quatre degrés de l'intellect, publiée à Padoue en 2002, où Marc souligne le crypto-plotinisme de la quadripartition farabienne et le connecte à la pseudo-théologie d'Aristote. Marc Geoffroy a participé à toutes les entreprises touchant à ce que j'appellerais ce décryptage plotinien du péripatétisme arabe, entamé par les références répétées de Jean Jolivet à Platon et à Plotin dans ses cours sur la noétique. Je citerai en 2008 le projet Albert Legrand, De causis et processu universitatis, monté pour traduire et commenter le second livre du De causis d'Albert Legrand, et plus près de nous, le cycle de colloques sur les éléments de théologie et le livre des causes du 5e au 17e siècle, organisé par Dragos Kalma et Marc en novembre 2015, février et avril 2016. Mais Marc Geoffroy est aussi et d'abord un des grands spécialistes d'Averroès, et c'est sur cet aspect que je me concentrerai de manière très lacunaire à présent. Marc Geoffroy aura eu un double lectorat, correspondant à deux publics supposés. Un public, c'est assez curieux cette expression d'ailleurs, pour ne pas dire large, on dit plus large. Et évidemment, il est moins large qu'un public large. Mais enfin, vous me suivez, un public large, entre guillemets, et un public étroit, qui, lui, n'a pas besoin de guillemets. Mais sans jamais déroger dans ses formes d'expression aux exigences de la philologie. Si l'on pense au public plus large, étudiant, lycéen, il a été la cheville ouvrière du projet éditorial que j'ai développé sur la base du diagnostic posé dans Pensée au Moyen-Âge, à l'occasion d'un autre projet culturel et pédagogique mis en place par Thierry Fabre, dans les premiers temps du magazine de Lima, Cantara, avec la création à Marseille des rencontres d'Averroès. Faire descendre la philosophie arabo-musulmane dans des collections de poche, de façon à l'intégrer au programme. Lors des premières rencontres d'Averroès en 1994, l'idée m'était venue de republier le traité décisif dans la traduction de Léon Gautier de 1905, avec le texte arabe et une étude de Mohamed Abed al-Jabri, qui eût porté sur l'avéroïsme d'hier et d'aujourd'hui. La chose semblant peu réalisable, je pensais alors, sur le Vieux-Port, à Marc, qui, précisément, venait de traduire et présenter l'introduction à la critique de la raison arabe de Jabri avec Ahmed Mahfoud. De retour à Paris, je lui proposais la chose, il accepta, l'éditeur emboîta le pas, ce fut le livre du discours décisif, suivi quelques années plus tard de l'Islam et la raison, tous deux publiés chez Flammarion dans la collection GF, le traité décisif en bilingue. L'autre lectorat de Marx aura été celui de ses écrits scientifiques stricto sensu sur Averroès pour la théologie, sur l'almohadisme théologique, mais surtout pour la noétique, dont je parlerai exclusivement maintenant. Le résumé du travail de la thèse soutenue en 2009 devant un jury composé de Gerhard Hendress, de Charles Genkamp, d'Henri Huguenard-Roche et de Julie Hansens donne une idée de l'orientation générale et des résultats obtenus en ce domaine. Je n'en lis que le début de ce résumé. Ce travail étudie les sources et les origines de la théorie de l'intellect d'Averroès, dont l'influence fut décisive sur l'histoire de la philosophie médiévale occidentale. Il souligne le fait que l'œuvre de l'exégète par excellence d'Aristote, que fut Averroès, aborda dans un premier moment de sa carrière la psychologie de tradition aristotélicienne sans avoir lu le De Anima d'Aristote, à travers la médiation de commentateurs comme Alexandre d'Aphrodis, Thémistius, eux-mêmes lus par un prédécesseur andalousien, autrement dit d'Al-Andalus, immédiat d'Averroès, dont l'œuvre devait influencer éminemment celui-ci, Ibn Bajjah. Un résumé n'est qu'un résumé et une thèse n'est qu'une thèse. Si j'en avais le loisir, c'est sur deux sommets de l'œuvre construite au fil d'un temps trop court, en tant qu'ils s'inscrivent, ces sommets, dans le processus engagé en 25 par Étienne Gilson et poursuivi à l'EPHF par Jean Jolivet, que je conclurai cette évocation. L'édition de deux textes d'Averroès. Deux sommets, véritablement, je n'ai pas d'autre mot, du travail philologico-philosophique de Marx. Le De Anima Beatitudine, d'une part, la béatitude de l'âme, édition et traduction des textes constituant le traité publié sous ce titre et sous le nom d'Averroès en 1562. Et, d'autre part, le grand commentaire du traité de l'âme. C'est de ce dernier seul que je vous parlerai. Si le travail de Marc Geoffroy et de Carlos Steele sur le traité de la béatitude de l'âme. Il est quelque part ici, eh bien non, je ne le trouve plus, tant pis, est un bijou. J'avais ce bijou à portée de la main, n'est-ce pas ? Celui de Marc Geoffroy avec Madame Colette Sirat sur l'original arabe du grand commentaire d'Averroès sur le De Anima est un monument. Un peu, quelques éléments de récit. En 1985, Abdelkader Ben Cheïda, un ancien du séminaire de Jean Jolivet au début des années 70, publie quelques exemples de fragments de l'original arabe du grand commentaire d'Averroès sur le traité de l'âme, préservé en caractère hébraïque dans un manuscrit de Modène, Bibliothèque à STNC Alpha J 623, copié en 1354 à Saragosse. L'édition de l'ensemble annoncée par Ben Cheïda n'ayant pas vu le jour, Colette Sirat, Madame Colette Sirat et Marc Geoffroy entreprennent d'éditer l'intégralité du matériau. L'entreprise réclame le concours de deux expertises, linguistique en arabe et en hébreu, mais aussi philologique en paléographie et en codicologie, à quoi l'on peut ajouter une troisième en philosophie juive et arabe et une quatrième en averroïsme. Madame Colette Sirat, de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, directrice d'études à la quatrième section de l'École pratique des hautes études, grande hébraïsante, et Marc Geoffroy annoncent leur projet et leur collaboration en septembre 2000 dans le bulletin de l'Association des Amis de l'IRHT et en présentent les premiers résultats dès 2005 dans l'original arabe du grand commentaire d'Averroès au De Anima d'Aristote, prémisse de l'édition, Paris-Vrin, 2005, petit volume, puis en 2006 dans The Modena Manuscript and the Teaching of Philosophy in 14th and 15th Century Spain. Les deux savants travaillent avec acharnement dans une collaboration exemplaire qu'il appartiendra à Madame Colette Sirat et à elle seule de retracer le moment venu. Ayant accompagné et soutenu le projet depuis ses débuts, mais aussi en tant qu'éditeur et préfacier du futur volume, je veux néanmoins, pour conclure, vous donner une idée de l'importance du travail accompli. D'abord, quelques mots sur les 10 fragments. Il s'agit de gloses qui accompagnent le commentaire moyen d'Averroès sur le De Anima, copié dans la colonne centrale. Pour le livre 1, Marc Geoffroy et Colette Sirat en recensent plus de 360 gloses. Pour le livre 2, plus de 500. Pour l'ensemble du livre 3, plus de 610. Avec Colette Sirat et Marc Geoffroy, ce texte, qui depuis le Moyen-Âge ne nous était connu que par la version latine de Michel Scott, se voyait, pour ainsi dire, promis à la résurrection, en sa langue, dans un état que l'on pouvait espérer plus proche de l'origine que la version latine et qui ne pouvait manquer de présenter avec elle des différences ou des leçons alternatives. Le résultat a dépassé les attentes. Marc Geoffroy et Colette Sirat se sont, pour commencer, centrés sur une cible précise, les 224 gloses des folios 54 verso, 58 verso, correspondant au début du livre 3 du Grand Commentaire, autrement dit le discours sur la faculté rationnelle constitué par Grand Commentaire, livre 3, commentaire 1, jusqu'à commentaire 39. Ce texte est celui qui intéresse au premier chef, massivement, décisivement, l'histoire de l'averroïsme. Les chapitres 4 et 5 du troisième livre sur l'intellect en puissance et l'intellect agent. Il s'agit du texte que, je le dis au passage, j'avais traduit il y a plus de 20 ans, d'après la version latine, en bénéficiant à l'époque des rétroversions arabes et des conjectures de Marc, et publié finalement en 1998 sous le titre « L'intelligence et la pensée », toujours dans l'AGF. Dans les prémices de l'édition, publiées ces prémices en 2005, les auteurs résumaient ainsi les résultats de leur travail. C'est le point B sur l'écran. Le texte dont sont tirées les gloses n'est pas identique à ce qui fut traduit en latin. Il s'agit d'une version antérieure du même commentaire. Ce commentaire plus ancien était connu de certains philosophes juifs à Saragosse. 3. En Espagne chrétienne, plusieurs studias, yeshivot, dispensaient aux étudiants juifs un enseignement de philosophie averroïste en hébreu, mais aussi en arabe. Au passage, les deux auteurs revenaient sur l'épineux problème de la datation du commentaire moyen par rapport au grand commentaire, en distinguant d'abord deux versions du grand commentaire, l'une antérieure au commentaire moyen, l'autre postérieure, ayant servi de base à la traduction de Michel Scott, puis ils distinguaient deux états de la première version. En 2018, le travail entamé en 2000 est pratiquement achevé. Au-delà du déchiffrement des gloses, la collaboration de Marc Geoffroy avec Colette Sirat a trouvé un second terrain d'expression, l'intégration des sources juives au scénario de la production du grand commentaire et de sa relation au reste de l'œuvre. Commentaire moyen, mais aussi les épîtres, les fameuses épîtres 1 et 2, n'est-ce pas, du dossier de la béatitude de l'âme et des cours de Jean Jolivet que je n'ai pu évoquer aujourd'hui. De fait, l'étude des citations et témoignages du grand commentaire dans les œuvres de Shem Tov Im Falkera, Les opinions des philosophes et le guide du guide, d'un opuscule de Yadayaha Penini, Les opinions des philosophes sur l'intellect matériel sont au nombre de 5, et surtout du surcommentaire au commentaire moyen par Shem Tov Ben Joseph Im Shem Tov, permet de documenter un état du texte qui n'a de parallèle ni dans la première version du grand commentaire, ni dans la version latine. Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire, il y a en histoire de la philosophie médiévale une loi d'Airain, que l'on pourrait appeler loi de Saint-Pé, qui veut que rien n'est simple et nécessairement comme suit, tout se complique. C'est la grandeur des philosophes philologues, ou des philologues philosophes, comme Colette Sirat et Marc Geoffroy, de prouver que malgré les apparences, la dureté du travail, les heures enfuies, toute multiplicité se réduit à l'unité. Et que l'inextricable dossier des fragments inconnus de l'original arabe du grand commentaire d'Averroès au De Anima d'Aristote peut se ramener à l'unité d'un unique et vrai livre. Constitué d'une introduction générale, de l'édition diplomatique des gloses arabes en caractère hébreu du manuscrit de Modène, de l'édition critique de ces gloses accompagnée d'une traduction française et d'un commentaire, de l'édition de la traduction et du commentaire des œuvres de Falkera, Penini et Shem Tov, Ben Joseph Im Shem Tov. la thèse d'une révision constante du grand commentaire et le grand acquis du travail de Colette Sirat et Marc Geoffroy, ce qui ne va pas sans rétractationnes. S'appuyant sur leurs propres réflexions, confirmées par les analyses de Ruth Glasner pour la physique, ils s'interrogent. Averroès a-t-il jamais publié un commentaire sur le De Anima, la métaphysique ou la physique? Les commentaires d'Averroès n'étaient-ils pas plutôt des sortes de dossiers exégétiques dont le maître se dotait pour servir à un enseignement oral consistant dans la lecture suivie des œuvres d'Aristote et dans lesquelles il pouvait puiser également pour d'autres écrits, et à l'inverse, intégrer d'autres écrits? Beaucoup d'indications nous confirment le caractère ouvert de ces œuvres. On trouve ainsi la trace de plusieurs strates de rédaction, y compris dans le grand commentaire latin, où coexistent des états distincts de la doctrine, parfois inconciliables entre eux. À lire ces lignes, on voit à quel contresens inéluctable ont été jusqu'ici exposés les interprètes du grand commentaire, et l'on s'explique l'extraordinaire discordance des interprétations. Une œuvre médiévale est souvent, pour reprendre le titre d'Umberto Eco, une œuvre ouverte. C'était éminemment le cas, je n'ai pu le montrer, du traité sur la béatitude, c'est suréminemment le cas du grand commentaire. On n'en admire que plus le travail philosophique de ceux qui, comme Étienne Gilson ou Jean Jolivet, dans l'ignorance relative et variable selon les années, des détails de l'histoire des textes et de leur transmission, ont su par leur propre acribie en pressentir quelquefois, même en déceler quelquefois les effets, hein, sans avoir eu d'accès possible aux causes. Un philosophe philologue peut mourir littéralement à la tâche, tout en laissant inachevé son grand œuvre. C'est ce que notait aux premières lignes de son avant-propos Maurice de Gandillac, l'éditeur-directeur de la thèse de Vladimir Lossky, 1903-1958. Lossky était un des intellectuels, comme Berdiaïev et Sergueï Nikolaïevitch Bulgakov, expulsés en 1922 par Lénine sur les fameux « bateaux des philosophes » de Petrograd à Stettin. Il reste pour nous l'auteur de « Théologie négative et connaissance de Dieu » chez Maître Eckhart, la dite thèse publiée, inachevée, en 1960 aux éditions Vrin. Pensant à Marc, philologue, philosophe, permettez-moi de conclure comme le faisait Étienne Gilson dans l'émouvante préface du volume. S'il y avait pour nous une consolation humaine possible à la perte de notre ami, c'est là, sans doute, que nous serions le plus sûrs de la trouver, dans ce livre où il a mis tant de lui-même et du plus intime, que le bienfait de sa présence ne peut plus être, pour nous, tout à fait perdu. Le livre de Marc et de Mme Colette Sirat existe. Il était quasi achevé, il sera publié dans Sic et Non. Nous y trouverons la consolation que l'on peut trouver à la perte d'un ami, la même que celle que nous trouvons en relisant, le résumé des cours de Jean Jolivet. Ce qui aussi nous lie par-delà le temps et la mort à l'enseignement d'Étienne Gilson.